Chapitre 28. Francesca. Quand tu aimes quelqu'un, tu le prends en entier, avec toutes ses attaches, toutes ses obligations. Tu prends son histoire, son passé et son présent. Tu prends tout ou rien du tout. R.J. Ellory. Greenwich Village, 5h du matin. Jonathan se réveilla en sursaut, la tête posée au creux de l'épaule de Madeline. Malgré la brutalité avec laquelle il était sorti du sommeil, il se sentait étonnamment bien. La maison s'était réchauffée. Du dehors montait le bruit du vent et les palpitations de la ville. Il regarda l'heure, mais pendant un moment resta allongé, blotti contre le corps doux et brûlant. Puis il se fit violence et quitta en silence la bulle chaude de son amour naissant. Il enfila son pull et son jean avant de fermer la porte de la chambre pour descendre au salon. De la poche de son manteau, il sortit la photocopie que Madeline lui avait donnée la veille. Le courrier électronique volé dans l'ordinateur de Georges. De Francesca De Lillo à Georges La Tulipe. Date 4 juin 2010, 19h47. Georges, je t'en supplie, renonce à ton projet d'aller voir Jonathan à San Francisco. Nous avons pris la bonne décision. Il est trop tard pour avoir des remords. Je croyais que tu avais compris en lisant la presse. Oublie Jonathan et ce qui nous est arrivé. Laisse-le se reconstruire. Si tu lui avoues la vérité, tu vas nous mettre tous les trois dans une situation dramatique et tu vas tout perdre. Ton boulot, ton appartement, ton petit confort. F. Jonathan s'installa au bureau de chaîne sur lequel trônait l'ordinateur. Claire devait avoir l'habitude de prêter son appartement à des amis. Un papillon adhésif scotché à l'écran indiquait le mot de passe pour ouvrir une session invitée. Jonathan se connecta à Internet et prit le temps de relire le message. Ainsi, Francesca ne l'aurait pas trompé avec Georges. Il avait encore du mal à le croire. Pourquoi avoir monté de toutes pièces ce scénario sordide ? Pour protéger quel autre secret ? En lisant le mail une troisième fois, il surligna la phrase « Je croyais que tu avais compris en lisant la presse ». À quoi Francesca faisait-elle allusion ? Le mail datait du mois de juin. Madeline lui avait confié qu'elle avait épluché des articles de journaux parus les mois précédents en croisant les noms de Francesca et de Georges sans trouver de piste concrète. Il écrasa un bâillement. Se leva pour préparer du café avant de se mettre au travail et de compulser à son tour les archives de la presse en ligne. L'explication de ce mystère était forcément là. Au bout d'une heure, il tomba sur un étrange article du Daily News. Bahamas. Le corps d'un financier retrouvé dans l'estomac d'un requin. Parti à la pêche au mérou au large de l'île de Columbus, un plaisancier a fait ce jeudi une macabre découverte en capturant un requin dans ses filets. Alors qu'il le hissait sur son embarcation, le squale a recraché un long morceau d'os qui ressemblait fort à un humérus. Intrigué, l'homme a prévenu les gardes-côtes qui ont ouvert le ventre de l'animal pour y trouver d'autres fragments de squelette humain, notamment un bout de cage thoracique et une mâchoire. Grâce à l'analyse de l'ADN extrait des os, la police bahamienne a pu identifier le cadavre. Il s'agirait du businessman américain Lloyd Warner, vice-président du complexe hôtelier de luxe Wynn Entertainment. Âgé de 45 ans, Monsieur Warner n'avait plus donné signe de vie depuis le 28 décembre dernier où il était aperçu à l'aéroport de New York dans une boutique de prêt-à-porter, de retour des Bahamas justement. Jonathan n'en crut pas ses yeux. Lloyd Warner était mort depuis 2 ans et il ne l'apprenait qu'aujourd'hui. Lloyd Warner, le directeur financier de Wynn Entertainment. L'homme qui avait précipité sa chute en refusant de rééchelonner la dette du groupe Imperator. En un éclair, le souvenir d'heures sombres remonta à la surface. Le cercle vicieux de l'endettement, la faillite de son entreprise, les difficultés financières dans lesquelles s'était débattue Francesca pour lutter contre la prise de contrôle de Warner et de ses vautours, leurs anciens associés qui s'étaient mués en prédateurs. Était-ce à cet article que faisait allusion son ex-femme dans son mail à Georges ? Avait-elle joué un rôle dans la mort de Lloyd Warner ? Mais dans quel but, puisque cet acte n'avait aucunement empêché la faillite de leur entreprise ? Décontenancé par sa découverte, Jonathan imprima à la hâte l'extrait du journal et griffonna quelques mots sur l'ardoise murale à destination de Madeleine. Puis, il enfila son manteau avant d'attraper les clés de voiture pendues près de la porte. Dès son arrivée, Jonathan avait repéré la Smart vert amande de Claire garée dans l'impasse privée. Le froid était de plus en plus vif. Il démarra la petite voiture et fit chauffer le moteur en écoutant sur une station d'info le début du flash.
Poursuite aujourd'hui en Californie du procès de la Mexicaine Jezebel Cortez, l'héritière du chef d'un cartel de la drogue. Surnommée la Muñeca, elle est la fille du parrain.
Mais il n'avait pas l'esprit à s'infliger la litanie de tous les malheurs du monde. Il coupa l'autoradio et s'engagea dans Grove Street. À cette heure très matinale, la circulation était fluide. La 7e avenue, Varick, puis Canal Street. Il retrouvait la géographie new-yorkaise, parcourant un trajet qu'il avait effectué des centaines de fois lorsqu'il habitait ici. Au milieu du flot de taxis jaunes, il remarqua la Ferrari noire dans son rétroviseur. Même quand il avait de l'argent, il n'avait jamais été un passionné de bagnole, mais celle-ci était différente. Son père lui avait offert le modèle réduit lorsqu'il était enfant. Une 250 GT California Spider à châssis court. L'une des voitures les plus rares et les plus belles de l'histoire, produite à seulement quelques dizaines d'exemplaires au début des années 1960. Il eut à peine le temps de tourner la tête que le cabriolet déboîta sur sa droite et plaça une accélération foudroyante avant de disparaître en fonçant vers Soho. Quel malade! Tribeca avait beau être l'un des quartiers les plus chers de Manhattan, Jonathan ne s'y était jamais vraiment senti à l'aise, trouvant l'endroit dépourvu de charme et d'harmonie. Il prit la première place qui se présenta aux abords de l'immeuble où vivait son ex-femme. L'Excelsior, une imposante résidence d'une quinzaine d'étages, datait des années 1920. Récemment, les promoteurs s'étaient emparés de cet ancien hôtel Art déco pour le rénover et le transformer en loft high-tech à destination d'une clientèle multimillionnaire.
« Hello, Eddie !»
lança-t-il en entrant dans l'immeuble. Sanglé dans un uniforme marron à galons dorés, le portier mit plusieurs secondes pour le reconnaître.
« Monsieur l'Empereur, ça pour une surprise !» lâcha-t-il en réajustant sa casquette.
« J'aimerais voir Francesca. Pouvez-vous la prévenir que je suis dans le hall ?»«
C'est qu'il est encore tôt !»«
J'insiste, Eddie. C'est vraiment important. »«
Je vais appeler madame directement sur son téléphone. »
Physique imposant à la B.B. King, Eddie Brock était, à tous les sens du terme, l'homme clé de l'immeuble, celui qui connaissait les secrets de tous ses habitants. Engueulades, tromperies, maltraitances, problèmes de drogue. Selon que vous entreteniez de bons ou de mauvais rapports avec lui, votre vie pouvait être grandement facilitée ou devenir un enfer.
C'est bon, monsieur, elle vous attend.
Jonathan remercia le portier d'un signe de tête et appela l'un des ascenseurs alignés au fond du hall. Il tapa le code permettant à la capsule d'arriver directement dans l'appartement de son ex-femme, ouvrant ses portes sur l'antichambre du duplex de verre qui coiffait les deux derniers étages de l'immeuble. Jonathan s'avança jusqu'au salon, une pièce démesurée, au carrelage en pierre de lave et au mobilier contemporain en bois blond et en noyer. Ici, tout était dans l'épure et le minimalisme. Deux longues cheminées high-tech encastrées dans une avancée métallique crachaient une dizaine de petites flammes, tandis que d'immenses baies vitrées, ouvertes sur l'Hudson, abolissaient la frontière entre l'intérieur et la terrasse. Alors que le jour se levait, la luminosité était féerique, mélange de rose, de pourpre et de gris-blanc. Bien qu'il eût vécu ici pendant 2 ans, Jonathan s'y sentait désormais comme un étranger. Le jardin intérieur, la terrasse de 400 mètres carrés, la vue arrogante, le service de concierge à toute heure, le personnel de maison, la piscine chauffée de 20 mètres de long, le gymnase, le sauna. À l'époque où il était l'empereur, tout ce luxe lui paraissait normal. Aujourd'hui, il avait l'impression d'avoir eu autrefois la folie des grandeurs et de n'être plus qu'un simple mortel venu visiter les dieux sur leur Olympe. Sortant de la chambre à l'étage, Francesca se précipita.
« Qu'est-il arrivé à Charlie ?»«
Charlie va très bien. Il est resté à San Francisco avec ton frère. »
Rassurée, elle descendit l'escalier de verre qui donnait l'impression qu'elle flottait dans l'air.
Vu l'heure, elle avait certainement enfilé à toute allure son jean noir et son pull en V de cachemire beige. Pourtant, elle paraissait impeccable. Elle avait ce port altier et cette allure propre aux gens appartenant aux familles vivant dans la richesse depuis plusieurs générations. Son argent était marqué du sceau « Given, not earned ». Donné, pas gagné. C'était peut-être aussi cela qui les avait séparés. Lui, au contraire, avait gagné son argent avant de le perdre. « Tu l'as tué, n'est-ce pas ? » demanda-t-il en lui tendant la feuille de papier où était imprimé l'article relatant la mort de Lloyd Warner. Elle ne baissa même pas les yeux pour le lire. Elle ne demanda pas de qui il parlait. Elle resta simplement immobile quelques instants avant de s'installer sur le canapé et de s'enrouler dans un plaid. « Qui te l'a dit ? Cet imbécile de George ? Non, sûrement pas. Comment ça s'est passé ?» Elle ferma les yeux, laissant les souvenirs affluer. « C'était fin décembre, il y a tout juste 2 ans, commença-t-elle. Tu m'avais accompagné le matin à l'aéroport et je t'avais dit que j'allais à Londres pour visiter l'un de nos restaurants. C'était un mensonge. La semaine précédente, j'avais appris que Lord Warner irait aux Bahamas, à Nassau, pour négocier un contrat concernant l'un de leurs casinos. J'avais décidé d'y aller moi aussi, pour le convaincre d'accepter un rééchelonnement de notre emprunt. En arrivant, je lui ai laissé un message à son hôtel pour lui demander de me rejoindre à Columbus. À l'époque, il n'avait pas conscience du gouffre abyssal de notre endettement. Nos restaurants commençaient à se développer, mais la crise économique et financière a cassé notre croissance. Je voulais que Vin Entertainment nous laisse plus de temps pour rembourser. Et il n'y avait pas moyen de lui parler seul à seul à New York.
Il est venu te voir ?
Oui, nous avons dîné ensemble. J'ai essayé de le convaincre de nous laisser du temps, mais il ne m'a pas écouté. À la place, il a passé la soirée à me draguer éhontément, si bien que j'ai quitté la table avant les desserts. Une femme de chambre entra dans le salon, apportant un plateau supportant une théière et 2 tasses. Francesca attendit qu'elle soit sortie pour continuer. Alors que je les croyais partis, Lloyd Warner est venu me rejoindre dans ma chambre pour me proposer un marché. Il était d'accord pour faire un effort concernant notre dette, mais à condition
que tu couches avec lui.
Elle acquiesça. Quand je l'ai envoyé paître, il a refermé la porte et s'est jeté sur moi. Il avait bu plus que des raisons, sans doute sniffé pas mal de coke. J'ai crié, mais un mariage battait son plein dans tout l'hôtel. En me débattant, j'ai attrapé une statue sur la table de chevet, une imitation d'un bronze de Giacometti. J'ai porté le coup à la tête, très fort. Il s'est effondré. J'ai d'abord cru qu'il était sonné, mais il était mort. Abasourdi, Jonathan se résolut à prendre place dans le fauteuil le plus proche de Francesca. Pâle et serré dans son plaid, celle-ci semblait pourtant très calme. Jonathan, lui, n'arrivait pas à savoir s'il était soulagé ou fou de rage. 2 ans de mystère venaient de se résoudre en quelques phrases. 2 ans ne plus pouvoir faire confiance à personne parce qu'il n'avait pas vu venir la trahison de sa femme pour la bonne raison qu'elle ne l'avait pas trahi.
Pourquoi n'as-tu pas appelé la police ?
Tu crois vraiment qu'ils auraient cru à mon histoire de légitime défense, avec les dettes qu'on avait ? Avec le mot que je lui avais envoyé pour qu'il vienne me voir ?
Qu'as-tu fait du corps ?
J'étais descendu dans la suite sur Piloti, où nous avions déjà logé tous les deux. J'ai eu l'idée d'emprunter le bateau que l'hôtel met à la disposition des clients. C'est un petit Aquacraft en acajou, tu te souviens ? Je l'ai manœuvré jusqu'au ponton de la suite et j'ai traîné le corps dans la cabine. Il faisait nuit noire. J'ai prié pour ne pas croiser de garde-côte et je suis allé balancer le corps de ce salaud à 20 milles du rivage. Avant, j'ai eu la présence d'esprit de récupérer son portefeuille et son portable.
À l'hôtel, personne ne s'est aperçu que tu prenais le bateau ?
Non, la noce mobilisait toute l'attention du personnel. Tu m'y trouves atroce ?
Décontenancé, Jonathan détourna la tête pour fuir le regard de Francesca. Bien décidé à crever l'abcès, celle-ci ne laissa pas le silence s'installer.
« J'étais paniqué, » reprit-elle. « Si on signalait la disparition de Warner aux Bahamas, on allait remonter jusqu'à moi rapidement.
Des dizaines de personnes nous avaient aperçus dînant ensemble au restaurant. Ma seule chance était qu'on ne retrouve pas son corps tout de suite. Pour ça, j'avais lesté le corps avec la gueuse de fonte présente sur le débote et surtout de faire croire à tout le monde que Warner était rentré aux États-Unis. En consultant ses mails sur son téléphone, je suis tombé sur un message l'invitant à s'enregistrer pour son vol de retour. Je m'y suis connecté au site de la compagnie aérienne et j'ai rempli les formalités. C'était jouable, mais il fallait que quelqu'un prenne physiquement la place de Lloyd. J'ai alors pensé à George à cause de sa vague ressemblance avec Warner.
George t'a servi d'alibi ?
Oui. En accréditant l'idée qu'il était mon amant, j'ai pu justifier ma présence aux Bahamas et prétendre que c'était lui qui se trouvait avec moi à l'hôtel. D'où les photos pour le paparazzi du coin. Surtout, il a voyagé avec les papiers d'identité de Lloyd sur le vol du retour. Et une fois à New York, je lui ai demandé d'effectuer plusieurs achats avec la carte de crédit que j'avais récupérée dans la veste de Warner. Quelques jours plus tard, lorsqu'on a signalé la disparition de Warner, les flics étaient persuadés qu'il était bien rentré à Manhattan. Personne n'a donc cherché à investiguer du côté des Bahamas jusqu'à ce qu'on retrouve son corps 6 mois après.
Où en est l'enquête aujourd'hui ?
Toujours sans toucher à son thé, Francesca prit le paquet de Denil posé sur la table basse et alluma une cigarette.
Je ne sais pas.
À mon avis, ils ont mis les dossiers en sommeil.
En tout cas, personne ne m'a jamais interrogé puisque, officiellement, ce n'est pas avec lui que j'ai dîné, mais avec George.
Trop longtemps contenu, la colère de Jonathan explosa.
Pourquoi ne m'as-tu pas appelé moi, ton mari ? Tu avais si peu confiance en moi ? Ne pas me parler du voyage passe encore, mais me cacher un meurtre !
Pour vous protéger, toi et Charlie. Pour ne pas te rendre complice d'un meurtre, justement. Pour qu'on n'aille pas en prison tous les deux. Mon plan avait 9 chances sur 10 de foirer. Réfléchis, qui aurait élevé notre enfant si on s'était fait prendre ?
Jonathan considéra l'argument. Il tenait la route. Et une part de lui-même était admirative devant le sang-froid, la logique implacable et l'intelligence supérieure grâce auxquelles Francesca était parvenue à se tirer d'affaire et à protéger sa famille. Aurait-il été capable de mettre en place un tel scénario ? Probablement pas. Sans doute aurait-il réagi en coupable. Sans doute se serait-il laissé submerger par ses émotions. Subitement, le sentiment d'absurde et de chaos dans lequel l'avait jeté leur séparation venait de disparaître. Ce qui leur était arrivé avait un sens.
Mais au même instant,
Jonathan prit conscience qu'il regardait à présent Francesca comme une étrangère. Il n'avait plus pour elle aucun élan, ni aucun sentiment, comme si une barrière invisible les séparait désormais définitivement.